Bonjour à tout le monde. Alors, c'est vraiment, vraiment assez exceptionnel que comme ça, deux fois de suite, c'est... Voilà. Alors, est-ce que... Qui n'était pas là dimanche dernier? Parce qu'il y avait un début. Ah, oui. Ah, quand même. Bon. Enfin, voilà. Pour dire que c'est aujourd'hui, de nouveau, parce qu'il y avait dimanche dernier. Et parce qu'il y avait deux parties. Et c'était sur Zacharie 4, vous vous rappelez? Alors, tu parles... Oui. Alors, pour les... Je me disais, mais j'ai rien pour les visuels, ça va pas du tout, ça. Mais il y a quand même quelque chose pour les visuels. Mais tout d'abord, avant de commencer, il y a une parole qui a été donnée, qui est venue d'outre-Atlantique cette semaine. Elle est venue de Kansas City, mais elle est venue d'un des nôtres. Alors, je ne sais jamais, c'est Lucas qui est là ou c'est... Comment ? Ah oui, Thomas, bon. Il paraît que c'est Lucas qui a dit ça, Lucas. Donc, il y a une soirée de prière à Kansas City, I hope, pour la France. Et puis, on était tous autour du petit ordi là, d'Elisabeth pour regarder ça. Hein. Et puis, il y a une parole, elle m'a impactée, vraiment une parole prophétique. Et c'est Lucas qui l'a libérée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la famille Lehmann. Il a dit, l'ennemi fait des vagues en France, le Seigneur fera un ouragan. Il a dit ça. Et puis, ce matin, vous avez vu, Janine ne savait pas. Hein. Elle nous a reparlé d'ouragan. Mais cette parole est venue, il faut le faire quand même, d'outre-Atlantique, par Lucas, enfin vous voyez, c'est en français, bien sûr, donné en français, au micro à Kansas City, donc impressionnant quoi, impressionnant. Alors la semaine dernière, je rappelle brièvement, c'était Zacharie 4, et j'avais expliqué qu'il y avait une magnifique menorah, c'était l'église quoi, en général, et notre église locale aussi, une magnifique menorah d'or massif, c'est comme ça que Dieu nous voit, et elle était irriguée par une huile absolument inépuisable, une onction inépuisable, mais il y avait deux sortes d'onctions, il y avait l'onction royale et l'onction sacerdotale, et on a vu l'onction royale. Alors je vais prendre juste pour montrer. Voilà, donc l'onction royale. On a un sceptre et on est appelé à gouverner. Et avec tout ce qui s'est passé cette semaine, il y a vraiment cette parole d'Esther qui résonne. Et si c'était pour un temps comme celui-ci que tu as appelé à régner? Et nous, Église, ce n'est pas une option. On doit prendre le sceptre et gouverner et régner. Avec le cœur de Dieu, avec tout ce que j'ai dit la semaine dernière, hein, on ne règne pas n'importe comment. Mais on doit régner. On doit régner. Le pays a besoin qu'une Église forte se lève, qui règne. Ça, c'est l'onction Zorobabel, l'onction du bâtisseur, l'onction qui tient ferme contre les montagnes qui s'élèvent, bien sûr, contre les bâtisseurs. Et on tient ferme et on dit, notre Dieu règne, notre Dieu est roi. On élève la royauté de Christ sur le pays. Voilà, ça, c'est l'onction royale. Maintenant, il y a une autre onction, et c'est celle de maintenant. Et je crois que c'était vraiment... c'était impressionnant. Je me dis, Seigneur, voilà, ce message, il était prévu. Hein, début de semaine, on savait que ça devait être donné. Et puis, il y a eu tout ça. Et plus que jamais, l'onction sacerdotale, elle est cruciale, quoi. Elle est cruciale. Il nous faut vraiment la double onction. Et je rappelle, l'huile est absolument inépuisable. Alors, il y a aussi, je vais donner deux petites anecdotes qui montrent dans quel temps on est, hein, discernement des temps. Les Issacars, voilà, Issacar, Janine et moi, on est reliés à Issacar spirituellement. Donc, voilà, discernement des temps. Il y a eu deux petites anecdotes, mais qui sont reliées. Il y a un peu moins d'un an, on était à Paris, pour le séminaire Mathurin Cordier. Et puis là, il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre. Donc, je vous dis ce qui est noté. Incident dans la nuit du 28 février 2014. Hein. Je me réveille, ayant l'impression d'avoir bien dormi, et je regarde ma montre. Elle s'est arrêtée à l'heure du coucher, c'est-à-dire plus de 23 heures. Par contre, bizarrement, seule marche la trotteuse. La trotteuse. Je regarde dehors, la nuit est noire, 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 noire. Aucun signe de jour qui approche. Donc, ok, je me rendors. Mais j'ai l'impression que très peu de temps après, je me réveille, il fait grand jour, et ma montre s'est remise à marcher. En entier. Hein. Et en fait, il s'était passé le même événement, un an avant, 25-26 mai 2013, pour ceux qui se rappellent, hein, Paul Viglot, c'était le Palais des Congrès, Paris. Il avait aussi une histoire de montre qui ne marchait pas, seulement le chronomètre qui marchait. Et là, il y avait une parole prophétique donnée. Nous sommes dans un temps fixé où chaque seconde compte. C'est le temps de Dieu pour la France. C'est le temps pour la France d'avancer. Et Romains 13, 11, 12 nous dit « La nuit tire à sa fin, le jour commence à poindre. » Et ça va très vite. On est dans le temps de la trotteuse, du chronomètre. Ça va très vite. Et il y a cette parole d'Ésaïe qui dit « Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit ?»« Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» C'est répété deux fois. « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» le jour vient. La nuit vient aussi, mais le jour vient. Et il faut vraiment qu'on regarde vers le jour, c'est le jour vient. Ok, la nuit vient avec des choses qu'on n'a peut-être jamais vues avant, hein, dans les ténèbres, mais le jour vient. Et beaucoup, beaucoup plus rapidement, il y a une accélération, on sent cette accélération. Hein. Qui eût dit dimanche dernier qu'il y aurait 1 million de gens dans la rue aujourd'hui? Qui eût dit qu'il y aurait 40 chefs d'État, qu'il y aurait la planète entière regarderait à la France? Qui eût dit ça dimanche dernier? Quand Dieu agit, c'est comme a dit Janine, c'est l'ouragan, hein, ça nous dépasse complètement. Donc Seigneur, vraiment, montre-nous qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église dans ce temps particulier. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? On veut ouvrir nos cœurs. C'est pas des personnes qu'on veut voir devant. C'est ton Esprit, Seigneur. Tu nous saisis par ton Esprit. Individuellement, collectivement, tu nous saisis par ton Esprit. On est à un temps de l'histoire avec un grand H, comme ça a été dit, mais c'est vrai, il y a un temps de l'histoire, il y a un temps pour une nation entière, Seigneur. Et vraiment, que veut nous dire l'Esprit? Viens déjà nous prendre actifs dans cette onction royale. On gouverne, on est appelé à gouverner. C'est le temps où on saisit le sceptre, on gouverne, on règne. Et on dit que Jésus est roi, il règne à travers nous. Mais c'est aussi l'onction sacerdotale. Et Seigneur, montre-nous ce que c'est que cette onction sacerdotale. Fais-nous aller beaucoup plus loin dans cette onction. Et déverse-la sur nous parce que c'est ton désir, c'est le cri de ton cœur qu'on soit revêtu, qu'on manifeste cette onction sacerdotale. Alors, vous connaissez tous le verset de Pierre. Il a fait de nous une nation sainte et un sacerdoce royal, ou alors un peuple de rois et sacrificateurs. Et puis il y a d'autres choses dans le verset, mais voilà, un peuple de rois et sacrificateurs. Alors, c'est 1 Pierre, mais en fait, on ne sait pas, on ignore en fait que tout ce verset de 1 Pierre est absolument, complètement tiré de versets de l'Ancienne Alliance. C'était déjà dans le cœur de Dieu, déjà dans l'Ancienne Alliance. Vous serez une nation sainte, un peuple de rois, de sacrificateurs. Enfin, je peux donner toutes les références, mais tout ça, Pierre n'a rien inventé, même par l'Esprit. C'était tout dans l'Ancienne Alliance. Donc c'est un désir fort de Dieu. Alors, je vous pose une question, sacrificateur, quand est-ce que ce terme apparaît pour la première fois dans la Bible? Pour la première fois. Le mot lui-même. Alors, il y a un site formidable, pour ceux qui ne savent pas l'hébreu, c'est magnifique, lexique-biblique.com. Vous y allez, vous savez tout, même si vous n'avez pas l'hébreu ni le grec. Lexique-du-milieu, biblique.com. Après, vous faites Darby Strong's, et ça vous donne, après vous pourrez rechercher n'importe quel mot hébreu ou grec, il vous dit où il est, dans quel verset, et vous avez toutes les occurrences de tel ou tel mot. C'est extraordinaire comme outil de recherche. Donc j'ai fait sacrificateur, hébreu, ça donne quoi? Alors qu'est-ce qui apparaît en premier? Quelle est la première fois qu'on parle de sacrificature? Bravo, Bénédicte, bravo. C'est pas du tout les sacrificateurs de Aaron, du temps de Moïse, non, c'est Melchisédek. Melchisédek, il représente qui? Bénédicte. Il représente qui? Melchisédek, c'est qui? C'est Jésus, bien sûr. Alors si Johan peut nous projeter quand même ces Genèse, parce qu'on a beaucoup de clés dans cette histoire de Melchisédek. Bon, je suis obligée de passer assez vite. Chaque chose pourrait faire des tas de messages, hein, c'est sûr. Oui. Donc chaque élément pourrait faire beaucoup, beaucoup de messages. Alors c'est Genèse 14, 18. Tu peux projeter ça? Alors, je vais le lire. Melchisédek, roi de Salem, ou Chalem, fit apporter du pain et du vin, deux points. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, chaque mot a son importance. Melchisédek, en fait, ça veut dire deux choses. Ça veut dire roi de justice, ou bien mon roi est justice. Et vous remarquez qu'il est sacrificateur. Donc on a déjà tout de suite, dans la première occurrence, cette notion sacrificateur et roi, la double onction, sacerdotale, royale. Et retenez bien cette notion, il est justice. C'est un élément essentiel, il est justice. Donc vous avez un rapport avec la justice, avec la sacrificature, et Chalem, ça nous parle de Jérusalem, évidemment. Et c'est Chalem, ça veut dire aussi paisible, la paix, hein, parfait, complet. Donc, on a, rien que dans ce verset, les éléments du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, et ce qui va après, c'est la joie. C'est ce qu'on a vécu dans le chant, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Vous avez déjà tout là. Et Exode 19,6 nous dit « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte ». C'est déjà là, dans Exode. Et c'est ce que répète, ne fait que répéter 1 Pierre 2,9. Donc on a cette notion de sacrificateur, et c'est Jésus. Jésus, tout de suite, il est là, il est relié avec la justice. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de justice? Et qu'est-ce que c'est que la sacrificature? Alors, on va revenir à ce qui précède Zacharie 4. Dans Zacharie 4, il y a l'histoire des deux oliviers qui irriguent le chandelier. Zacharie 4, c'est après Zacharie 3. Donc, pour comprendre Zacharie 4, il faut comprendre Zacharie 3. Alors, Zacharie 3, on voit le personnage du deuxième olivier. Vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais parlé des deux fils de l'huile fraîche. Donc, il y avait Zorobabel et l'autre, c'était Josué. C'est notre nom en plus, hein, notre nom d'église, notre identité, ça nous parle quand même. Alors, Josué, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, le terme Josué? Dieu sauve. En fait, c'est pratiquement presque le même mot que Yeshua. Yeshua, Yehoshua, Yeshua, ça veut dire la même chose, Dieu sauve. Donc, Josué, dans Zacharie 3, c'est un souverain sacrificateur et c'est aussi une image de Jésus. Tout parle de Jésus dans la Bible. Tout parle de Jésus. Yeshua, Dieu sauve, Dieu est salut. Alors, le salut, j'ai retrouvé un message extraordinaire de June Lewis, janvier 98. Alors, je vais vous dire les 8 significations de ce que ça veut dire sauver, être sauvé. Vous allez voir, c'est impressionnant, parce que parfois, avec le ministère Sozo, petite parenthèse, donc, Yeshua, Dieu sauve, Yeshua, Dieu sauve. L'élément, le correspondant grec, c'est sozo. Jesus, en grec, il y a l'élément, Jésus-Christ sauveur, c'est soter, ça vient de sozo. Donc, ministère sozo, ça vient de là. Donc, l'équivalent grec de Yeshua, enfin, celui qui sauve, c'est sozo. Les 8 éléments du salut. Le salut en Jésus, ça fait quoi? On est sauvé d'une mort certaine, premièrement. Deuxièmement, on est gardé du mal. Troisièmement, on est délivré de la maladie et restauré. Quatrièmement, on est délivré de la puissance des puissances mauvaises. On est délivré des tourments démoniaques. Cinquièmement, on est préservé de la destruction. Ça veut dire que Dieu veut nous sauver continuellement de tout ce qui veut nous détruire, nous blesser. Et en lui, nous avons la victoire sur les circonstances adverses. Sixièmement, nous prospérons vers notre but, notre destinée. Septièmement, nous sommes sauvés de circonstances désespérées. Huitièmement, nous sommes gardés d'un chemin de destruction. C'est tout ça, le salut. C'est énorme. Ne négligeons pas un si grand salut. C'est énorme, énorme, énorme. Et il ne faudrait pas que le ministère Sozo est très précieux, mais il ne faut pas que ça nous limite à cet aspect du salut. Hein. C'est énorme, le salut en Jésus. C'est énorme, énorme. Et la croix est très, très, très puissante. Donc, Yehoshua, oui. Oh, ben, je les ai là, si tu veux. Mais ce que j'ai pensé, c'est un message que j'ai retrouvé qui est vraiment fort. Et je me suis dit, même pour le ministère Sozo et tout, il faudrait vraiment que vous l'ayez. Donc j'ai vraiment à cœur de le taper. Message de June Lewis du 30 janvier 98. Hein, il est précieux et il est tellement actuel, quoi, hein, ce message. Voilà. Alors, donc Yehoshua, ça veut dire tout ça. Souverain sacrificateur Josué, c'est énorme. Hein. Fou, oh là là. Alors maintenant, le souverain sacrificateur, dans la Bible, donc dans Exode, il avait deux sortes de vêtements totalement différents, vraiment différents. Alors, il avait d'abord, premièrement, des vêtements sacrés. Exode 28,2 nous dit des vêtements sacrés pour marquer sa gloire et sa splendeur. Alors, tu peux nous prendre Exode 28, Johan ? Exode 28. Alors, on pourrait dire des choses, des tas de choses sur les vêtements du sacrificateur, mais on va regarder uniquement des choses qui nous parlent à nous, parce que ça nous parle de notre identité, de notre position en Christ. Alors, le sacrificateur, voilà, des vêtements sacrés, des vêtements très très beaux, remplis de couleurs, pour marquer sa dignité, pour lui servir de parure. Et on va regarder deux éléments de ces vêtements, parce qu'il y a les clochettes, il y a les grenades, enfin vous savez, il y a plein de choses qu'on pourrait dire une infinité de choses sur le vêtement du sacrificateur. Mais je voudrais m'attacher simplement à deux choses, le pectoral et les deux épaulettes. Alors, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'il y avait sur les deux épaulettes du souverain sacrificateur? Voilà, il y avait deux pierres d'onyx, des pierres précieuses. Et sur ces deux pierres, donc il y avait six tribus d'un côté, six tribus de l'autre. Et c'était gravé. C'était pas juste écrit comme ça, c'était gravé. Et alors là, un petit livre merveilleux, La Maison d'Or, qui nous explique ce que cela veut dire, ça. Je vais le lire, parce que c'est vraiment magnifique. Et tout nous parle de Jésus, tout. Donc le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Hein. Et il nous dit, que sont ces deux pierres, à droite et à gauche, sur les épaules du souverain sacrificateur? Ce sont des pierres précieuses. Sur chacune des pierres, six noms sont gravés, le nom des tribus d'Israël. Donc c'est le peuple d'Israël au sens actuel, hein. et puis nous, les tribus spirituelles. Le peuple tout entier est porté sur les épaules du souverain sacrificateur. Le Seigneur Jésus porte maintenant tous ceux qui lui appartiennent, tout le peuple de Dieu, sur ses puissantes épaules. C'est notre position. Et c'est tellement une sécurité de savoir qu'on est sur ses épaules. On est porté sur sa puissance, sur ses puissantes épaules. On est dessus. Et c'est en tant que peuple qu'on est, six d'un côté, six de l'autre. C'est une notion de communauté, de peuple. Maintenant, il y a une autre notion, c'est, vous savez aussi que sur le pectoral, il y avait quoi? Alors, le pectoral, c'est sur la poitrine, hein, c'est sur le cœur même du sacrificateur, il y avait quoi? Alors là, c'était individuel. Chaque tribu avait sa pierre et chaque tribu avait le nom gravé, indélébile, gravé sur la pierre et c'était sur le pectoral. Et c'était solidement attaché au pectoral, c'était impossible que ça puisse tomber. Et ça nous parle d'une sécurité extraordinaire, ça nous parle que Dieu nous connaît chacun. Alors je lis, le pectoral était carré, broché d'or, ça parle de la gloire, hein, et il y avait dessus, enchâssé dans le l'or, 12 pierres précieuses scintillantes, différentes, avec les noms des 12 tribus en gravure de cachet, donc indélébile. Les pierres précieuses sont ce que la terre produit de plus beau. Elles ont parfois une valeur inestimable. Chacun des noms est gravé sur une pierre distincte. Ce n'est pas comme pour les pierres des épaulières. Là, deux pierres pareilles, ici, 12 différentes. Sur les épaulières, le peuple est représenté comme un ensemble. Ici, chaque nom sur une pierre distincte. Ce sont deux motifs de se réjouir. Jésus porte l'assemblée, l'Église, son Église, hein, messianique et Église des nations, comme un tout. Ça, c'est les épaules. Mais il connaît le nom de chacun des siens en particulier, c'est le pectoral. Nous sommes connus, estimés comme une pierre précieuse. Et cette valeur, nous ne l'avons pas par nous-mêmes, mais nous l'avons reçue de lui. Il nous porte alors sur son cœur plein d'amour. Donc on est sur le cœur même, dans l'amour même de Dieu, porté sur son cœur. Et on sait très bien qu'il continue à exercer son ministère dans les lieux célestes, le souverain sacrificateur. Et ça nous donne une sécurité extraordinaire. Et ça nous sécurise aussi pour les enfants de Dieu qu'on connaît. Je pense à mon fiston en fin fond de la Chine, ça m'a beaucoup aidé ce message. Je me dis, oui Seigneur, il est sur ton pectoral. Il est en sécurité sur ton pectoral. Et pour tous les membres de notre famille qui sont à Jésus, et puis dans la foi, ceux qui ne sont pas encore, dit Seigneur, dans la foi, ils sont sur le pectoral, ils sont portés, ils sont au bénéfice de cette sécurité en toi, sur le pectoral. Et alors, encore plus fort que ça, alors vous savez, vous avez des tas de petits... on parle de chaînettes d'or qui relient, alors je ne sais pas si on peut lire ça. Oui. Est-ce qu'on peut lire le 28, 11, verset 11 à 14? Tous ces petits détails, normalement on les lit très vite parce qu'on se dit, oh là là, c'est... À quoi ça sert tout ça, quoi, hein. Tu graveras sur ces deux pierres, voilà, les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Ça nous parle encore de cette sécurité. Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des enfants d'Israël. Et c'est comme souvenir, car on portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. Tu feras des montures d'or et deux chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon. Tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Et le mot, il y a un mot qui parle de corde, et c'est le même mot qui est utilisé dans Osée pour dire qu'il nous attire avec des cordages d'amour. On est encordé, on est relié, on est en sécurité. Et c'est très important dans les temps d'ébranlement qu'on vit de savoir combien on est en sécurité. Et là, je vous fais part de mes trésors. C'est un trésor que j'ai depuis très longtemps. C'est dans mes trésors depuis 2007, là, cette chose. Ça vient de nos amis britanniques. Et voilà ce qu'il dit. Je le traduis en fur et à mesure. En fait, si vous voulez, les cordelettes faisaient que ce qui était sur les épaules était relié au pectoral. Donc, ce qui est sur les épaules, la puissance de Jésus, c'est relié au cœur. Et voilà ce qui est dit. Il y a une très belle signification dans ce fait. Ça nous rappelle que la puissance du bras de notre Seigneur est intimement liée à la tendresse de son cœur aimant. Aucune action de sa force n'est déconnecté de ses desseins de grâce et de miséricorde envers ses saints. Il fait que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime. Son bras, son cœur, agissent ensemble pour nous supporter, nous soutenir et nous faire aller jusque dans notre appel élevé. Il est capable, tout-puissant, pour nous garder de la chute, nous présenter sans défaut dans la présence de sa gloire, avec une joie débordante. On ne périra jamais et on ne sera jamais enlevé de la main de notre berger. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ? Vous voyez, donc cette image très très forte du pectoral et des pierres des épaules, on a vraiment à la garder en tête. Et comme dirait Janine aussi, il faut qu'on visualise ça. Nous, c'est notre position. Nous sommes sur la poitrine de Jésus, nous sommes sur ses épaules. Voilà, rien ne peut nous arriver. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu ? C'est un extraordinaire... On doit vraiment nous enraciner dans cette sécurité profonde, quel que soit l'endroit où le Seigneur nous envoie. Voilà, et quels que soient les événements que nous vivons, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, les pierres précieuses. Alors là, je me suis acheté à Noël un livre sur les pierres précieuses. Et chrétien, hein, voilà. Et là, j'ai appris quelque chose d'assez extraordinaire. La plus précieuse des pierres précieuses, c'est le diamant. Est-ce que vous savez ce qu'est le diamant à la base ? C'est du charbon. Il est tout entier fait de carbone. Du charbon, du bête charbon, du charbon, tout ce qu'il y a de plus de charbon. Voilà. Le diamant, c'est du carbone pur. La seule différence, c'est que les atomes sont unis beaucoup plus étroitement que dans les autres pierres précieuses. Quel miracle que ce charbon noir, sale, sans valeur, qui vient des profondeurs de la Terre, comprimé sous une pression de 10 milliers d'atmosphères, par une température de 1000 à 2000 degrés centigrades, deviennent, dans sa splendeur resplendissante, la plus belle pierre de la création de Dieu. Les pressions et la fournaise. Qui c'est qui a supporté ça ? C'est Jésus, c'est pas nous, c'est Jésus. Les pressions, la fournaise, la colère de Dieu à la croix, il y a une... Je ne sais pas combien de degrés ça faisait, mais c'était une fournaise épouvantable et les pressions aussi, terribles. Mais il a été rendu diamant pour que nous, de l'état de charbon, on devienne diamant. Voyez ? Donc c'est assez extraordinaire cet appel de pierre précieuse. Si Dieu dit qu'on est pierre précieuse, c'est l'honorer que de se mettre d'accord avec lui, parce qu'il a payé le prix. Si on continue à dire « gna gna gna, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, gna 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 », on déshonore son œuvre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de la fausse, c'est pas de l'humilité. Ça, là, c'est de la fausse humilité, voire de l'orgueil de dire gna 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 gna, je suis pas au point, je suis pas ci, je suis pas ça. On est une pierre précieuse terminée. On est ces magnifiques pierres sur le pectoral. C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a dit. On s'aligne. On est ça. Parce que je peux pas vous dire, mais si je vais vous le dire quand même, les 12 tribus, Lévi, Siméon. Ils ont fait quoi, hein, dans la vie ? Ils ont massacré des gens sans dépense. Judas, il est allé avec une prostituée qui était en fait sa belle-fille. L'autre, c'était qui ? Ruben, ah oui, c'était... Bon, je ne fais pas de détails, il y a des enfants. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire ? Les 12 tribus, c'était des drôles de gaillards. La tribu de Benjamin, elle a failli être exterminée tellement ils avaient fait des horreurs dans le livre des juges. Ça, oui, ça, c'est... On voit très bien le charbon, vous voyez ? C'est très charbonneux, tout ça. Dieu a dit, pierre précieuse. Quand Israël avait fait plein de bêtises, Dieu a dit, je ne vois pas d'iniquité, il dit ça devant Balaam, je ne vois pas d'iniquité dans le peuple d'Israël. Oh là là, Seigneur, ton regard n'est pas le nôtre. Hein ? Alors c'est très important de se rappeler ça, parce qu'après on va passer à Zacharie 3. Donc on est ces pierres précieuses. Et Dieu a fait de nous ces pierres précieuses, qu'on le veuille ou pas. Alors... Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu des pierres précieuses ? C'est le miracle de la justice. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice ? On vient à la deuxième tenue du sacrificateur. Il y avait un jour par an, un seul jour, où le sacrificateur se dépouillait de toutes ces magnifiques robes, toutes ces pierres précieuses, tout ça, et il n'y avait plus qu'une tunique en lin. En lin. Et le lin, ça nous parle de la justice. Donc, c'était le jour des expiations. Ces vêtements spéciaux, hein, cette tunique en laine, sont mentionnés que dans Lévitique 16 pour les expiations. Et ça parle de la justice. Et ce fin lin, ça revient en parlant de nous. Apocalypse 19, hein, le fin lin, ce sont les justices des saints. Et on parle aussi des armées qui suivent Jésus. C'est nous, hein, revêtus de fin lin. Donc la justice. Alors, je vais faire un petit sondage très important quand même pour les anciens et les conseillers. Hein. Qui n'était pas dans cette église et qui n'a pas écouté le message de Richard Hayes en mars 2009 ? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas là ? Ce n'est pas du tout une accusation, hein, c'est juste pour savoir. Donc, la grande, oui, il y en a plusieurs quand même. La justice, oui. Ça nous a changé la vie, hein, nous tous. Ça nous a changé la vie, ça a changé cette église. Ça... On était tous nés de nouveau. Beaucoup parmi nous ont marché avec le Seigneur depuis des années, 20, 30 ans. Mais là, ça nous a complètement dynamité, ça a tout changé. Hein. Alors, on voudrait vraiment que tous ceux qui n'étaient pas au bénéfice de cet enseignement puissent en profiter, parce que ça a fait de nous des, je dirais, oui, des créatures encore plus nouvelles qu'avant. Et ça nous a donné une autorité extraordinaire. Donc, la justice, oui, c'est... On est revêtu de la justice de Christ. Alors, les conséquences sont immenses, mais là, je ne vais pas refaire le message de la justice, parce que c'est que les cieux sont ouverts, c'est qu'on a l'autorité de demander, parce que c'est Jésus en nous qui demande, on est absolument juste, absolument justifié, et on peut demander tout, les cieux sont ouverts, partout où on est, les cieux sont là, et on a l'autorité et l'assurance pour demander. Et pour la petite histoire, Richard Hayes avait dit, vous allez devoir pratiquer après le message. Je ne vous dis pas, l'été 2009 a été un des étés de confrontation les pires que nous, on a vécu. Je pense qu'elle ne va pas être la seule. Chacun a vécu son petit test, là. On a tous été testés. C'est-à-dire, concrètement, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, le Seigneur nous a mis dans des circonstances où il n'y avait pas du tout le royaume. Il nous a dit, tu amènes le royaume. C'était costaud. La confrontation, je peux vous dire, elle était costaud. Et ça nous a pris vraiment toute la foi. On a dû pratiquer, vraiment, vraiment pratiquer, voyez. Par exemple, quand il dit les ressources du ciel sont à votre disposition, il vous met dans une circonstance où, normalement, il n'y a pas du tout de ressources, et vous dites, au secours, Seigneur, l'Éternel tient en réserve des ressources pour les hommes droits, vas-y, proclame, les ressources sont là. Ah oui, Seigneur, les ressources sont là, elles ont été là. Hein. Bon, dans mon histoire personnelle, je vous donne juste un petit exemple, en 48 heures ou 2 ou 3 jours, il fallait mettre sur pied 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une assistance à domicile pour ma tante qui était très, très, très diminuée. En 2-3 jours, je n'avais pas plus le temps. Il fallait qu'après, refaire la rentrée. Le Seigneur a fait. Mais heureusement qu'il y avait eu le message de la justice et du ciel ouvert. Ça donne une assurance dans la prière, je peux vous dire. Ça fortifie notre foi d'une manière incroyable. Mais le Seigneur est fidèle. Il nous teste après. Et on doit pratiquer. Et c'est pas pour rien qu'il nous met parfois dans des endroits pas possibles. Il nous dit, allez, tu pratiques le royaume de Dieu, tu l'amènes là où tu es, les cieux sont ouverts, vas-y. Il n'y a pas de ressources, s'il y a des ressources. J'ai un comptabilité rock, je sais. Hein. Il n'y a pas de ressources, s'il y a des ressources. Les cheminées sont cassées, 60 000 euros de devis, il y a des ressources. On y va quand même, on les fait, on les remplace et ça marche. Hein. Et ça marche, les cieux sont ouverts. Donc voilà, pour notre chair, c'est pas du tout confortable, vous voyez. Mais l'homme spirituel en nous, il grandit vitesse grand V, obligé. Et je pense que c'est que le début de ce qu'on va vivre dans les temps à venir. Hein. Dans des temps troublés, le Seigneur dit, allez, le royaume, tu l'amènes. La Trinité est en toi, vas-y, libère, c'est là. Et voilà. Donc la chair, elle est de plus en plus consumée avec tout ça. Hein. Alors maintenant, si on reprend Zacharie 3, donc on a ce magnifique Yehoshua, Dieu sauve. Mais il y a un adversaire. Zacharie 3, tu peux... Zacharie 3, qui c'est qui se tient juste à côté de Yehoshua, de Josué ? C'est Satan. Alors, Satan, c'est un mot hébreu. Vous savez qu'il y a 3 mots pour désigner l'ennemi. Hein. Bon, je ne vais pas revenir, il y a le grec, le latin, l'hébreu, Lucifer, le diable et Satan. Voilà. Et là, c'est Satan, ça veut dire l'adversaire, l'accusateur. Donc, on présente Satan dans cette forme spéciale de l'accusateur. Il est très fort comme accusateur. Donc, il accuse, moi j'ai repéré au moins 3 catégories d'accusations. Il accuse Dieu devant nous, c'est-à-dire qu'il nous déforme totalement la personne de Dieu, l'identité de Dieu. Et ça commence tout de suite avec le serpent en Genèse 3. Il accuse, il accuse, il accuse. Il nous donne une image totalement déformée de Dieu. Ça, c'est son premier boulot. Deuxièmement, il accuse les autres dans nos pensées. Alors, un moyen d'accusation très, très puissant qu'il utilise, je vous le dis, parce qu'il vaut mieux dénoncer quand même, il nous fait voir les autres, ceux qui nous entourent, les conjoints, famille, amis, dans la chair. Il nous les montre comme charbon. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il est charbonneux, celui-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne nous les montre pas dans l'esprit, il nous les montre dans la chair. Il nous montre leurs limites, leurs faiblesses, leurs défauts, leurs péchés, tout ça, bien sûr, sans espérance, sans amour. Et on dit... qu'est-ce que c'est bien ton discernement ? Oh là là, il est bien ton discernement. Tu as vu tout ça dans ton prochain. Waouh, qu'est-ce que tu discernes bien ? C'est 0000 tout ça. 0000. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. C'est nul. Donc, et en plus, il nous fait prendre sa voix, vous voyez, pour une voix de discernement. S'il n'y a pas l'amour, ça n'a aucune valeur. Bon, donc il accuse les autres et évidemment, il nous accuse, nous. Il pointe nos faiblesses, enfin voilà, notre état charbonneux. Il nous fait croire que nous sommes indignes, que nous sommes oubliés de Dieu, qu'on est moins aimés que d'autres. Il y a les chouchous de Dieu, il n'y a les pas chouchous. Et alors, plus subtil, il nous accuse, c'est le cas de Josué, à cause de nos vêtements sales. Alors, les vêtements sales, c'est quoi ? Bon, ça peut être oui, les péchés pas confessés. C'est sûr que ça salit quand c'est pas confessé. Parce que dès qu'on est confessé, dès qu'on confesse, c'est fini. Hein. Faut pas que l'ennemi revienne. C'est dans la mer de l'oubli, au fond de la mer, on revient pas là-dessus. Mais le plus subtil, comme vêtements sales, c'est les vêtements, et là, c'est vraiment subtil, c'est les vêtements de la propre justice. En fait, c'est le message, je dois faire quelque chose quand même pour être accepté par Dieu et pour être juste devant lui. Ok, Jésus a fait plein de choses à la croix, on est d'accord, ça, bien sûr, on ne va pas revenir là-dessus. Mais on doit faire un petit plus, vous voyez ? Et là, on est à côté de la plaque. Hein ? Donc, vous voyez que dans Zacharie 3, qu'est-ce qui se passe ? Jésus était couvert de vêtements sales, voilà. Il se tenait debout, et qu'est-ce qui s'est passé ? Ôtez-lui. Vous voyez que lui, Josué, il ne fait rien du tout, hein ? Il n'a pas fait un truc pour enlever ses vêtements. Non, c'est Jésus souverainement qui fait ça. Ôtez-lui les vêtements sales. Je t'enlève. C'est souverainement, c'est Dieu souverainement qui fait ça. Je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de ferte. Et on met sur sa tête un turban pur. Alors, le turban pur, curieusement, ce n'est pas la tiare que portent les souverains sacrificateurs dans Exode. Hein. Apparemment, c'est un ruban qui enveloppe la tête. Et Pierre Kanga, il avait fait un message aussi là-dessus. Il avait dit, mais c'est le renouvellement de la pensée. C'est voilà, nos pensées sont lavées, renouvelées avec ce turban pur. Il mit un turban pur sur sa tête. Il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et c'est le miracle de la justice, le miracle complet de la justice. Et vous regardez ce verset. Tu continues après. La déclaration. Ainsi parle l'Éternel. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes pervis. Je donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute, donc libre accès, on a une pleine assurance devant le trône de grâce. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Ce sont des hommes qui serviront de signe. Je fais venir mon serviteur le germe. Continue. Encore la suite. Voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Donc c'est Jésus, hein, la pierre fondamentale, la pierre d'angle. 7 yeux sur cette pierre. Je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Écoutez bien la suite. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Et après, c'est la joie. Vous inviterez les uns les autres sous la vigne, sous le figuier. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Est-ce que c'est possible que l'iniquité de la France soit enlevée par la justice de Christ ? En fait, ça ne dépend pas de la France, ça dépend de Christ. Ça dépend de notre foi, de notre... qu'on soit d'accord avec le sacrifice de Christ. Christ a tout fait. C'est nos yeux qui sont aveuglés. On ne voit pas l'ampleur de la justice. On ne voit pas combien la justice de Christ est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que toutes les fautes de toutes nos nations. On doit être un peuple qui arrête de gémir en disant « Seigneur, tu as vu ce qu'ils ont fait cette semaine ? Seigneur, tu as vu ?» On gémit. On n'a pas de puissance là quand on gémit. Il peut y avoir une tristesse selon l'esprit, mais c'est une tristesse qui enfante la vie. Et on est appelé à vraiment dire avec Dieu, oui, il y a un avenir, il y a une espérance pour ce pays. Tu es en train de réveiller ce pays. La France, l'Église de France est en train de se lever dans toute sa dimension de sacrificature et de règne. Nous avons vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage et parce qu'on n'a pas aimé notre âme, notre vie jusqu'à craindre la mort. Nous l'avons vaincu. C'est nous qui l'avons vaincu. Ça veut dire... Par la puissance du sang, on voit l'extraordinaire efficacité du sang de Jésus, la parole de notre témoignage. Et là, c'est crucial qu'on s'aligne sur la parole. La parole, elle nous donne cette cuirasse de justice, ce bouclier de la foi. On doit absolument s'aligner sur la parole. Je me sens ténébreux, charbonneux, tout ce que vous voulez. Ça, c'est ce que tu dis. C'est pas ce que la parole dit. Aligne-toi. C'est vital qu'on laisse tomber nos petits raisonnements. Je me sens pas comme si je suis pas à la hauteur, gna gna gna. C'est vital. On doit s'aligner parce que sinon, on laisse des brèches. L'accusateur, évidemment, il va nous plomber avec ça, évidemment. Et puis en profiter pour accuser les autres, pour accuser ci, pour accuser ça. On ne doit pas laisser de brèche à l'accusateur, ni pour nous, ni pour les autres. ni pour Dieu, bien sûr. Donc, on est, alors, c'est très, très important qu'on s'aligne avec la parole de Dieu. Je donne un exemple. Dieu dit dans sa parole, « Je suis une merveilleuse créature. » On s'aligne, même si on voit des cheveux blancs, même si on scie, on s'aligne sur la parole de Dieu. « Je suis une merveilleuse créature. » Et ceci dit, biologiquement, et c'est pour ça que c'est tellement important que la création, le créationnisme soit enseigné, si on voit qu'on est des millions et des millions, là, chacun de nous, là, on est tous assis, des millions et des millions et des millions de cellules qui fonctionnent dans l'harmonie, dans la complémentarité, dans une extraordinaire efficacité pour qu'on marche, qu'on mange, qu'on respire. Et c'est fabuleux. Rien que ça, on devrait être dans l'adoration la plus totale. Il faut vraiment qu'on soit aveuglé pour dire « Ah, je ne crois pas que je sois trop une merveilleuse créature. » Non, non, non. On est une merveilleuse créature. Regardez la biologie, c'est extraordinaire, voyez. Donc, lavons nos yeux, lavons notre tête, mettons un turban pur et puis décrassons-nous de tout ce qu'on a reçu d'accusations de tous les côtés, et puis alignons-nous sur la parole. Alors, on est sacrificateur pour offrir des sacrifices. Premier sacrifice, sacrifice de louange. Le fruit de lèvres, vous connaissez Hébreux 13. Hein. La louange, ça veut dire présence de Dieu, le ciel sur terre. Donc la louange, c'est incontournable. Sacrifice de louange, c'est parce que Dieu demeure dans la louange et parce qu'il veut envahir la terre par sa présence et par le ciel. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, il faudrait un message entier sur la louange, hein, mais bon. Après, la parole, le Nouveau Testament nous parle de la bienfaisance, la libéralité. C'est de tels sacrifices que le Seigneur prend plaisir. Ça parle de manifester la bonté, la générosité d'un Dieu qui donne, qui se donne. On manifeste qui est Dieu par ces sacrifices-là. Et puis, Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nos corps sont précieux pour Dieu. On en prend soin, on demande la sagesse pour en prendre soin. Et on est appelé à se donner soi-même avec son corps, ses membres et tout, à Dieu et aux autres. Voilà. Et bien sûr, une autre dimension de la sacrificature. Et là, je vais revenir à l'actualité. Je vous partage un chapitre très, très fort que j'ai vu, Ésaïe 59. Alors, Ésaïe 59, tu peux nous le prendre ? Alors là, je reviens un petit peu à l'actualité de notre pays. Ésaïe 59, il y a des années, dans les années 80, un ministère, je ne sais plus si c'est Gwen Shaw ou June, nous avait dit « Attention, la France, vous êtes en train de couver des œufs de basilic. Vous couvez des œufs de basilic. Des œufs d'aspic. Vous couvez des œufs d'aspic. Ça veut dire, vous êtes en train de laisser couver au milieu de vous, dans votre nation, des serpents extrêmement dangereux. » Et voilà ce que nous dit Ésaïe 59. Hein. Alors, à partir du... Ah oui, c'est vraiment pour la France. Hein. Ésaïe 59, à partir du verset 4. Ésaïe 59, 4, oui. Voilà. On s'appuie sur des choses vaines. Des choses vaines. On dit des faussetés. On conçoit le mal, on enfante le crime. Ils couvent des œufs de basilic, oui, ou d'aspic. Ils tissent des toiles d'araignée. Ça nous parle de réseau, hein. Ça, je ne fais pas de dessin, des réseaux, tous les réseaux qui sont en train de tisser sur le pays. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on brise un œuf, il sort une vipère ou un cobra, dans ma traduction, un cobra. Et verset 6, leurs œuvres sont des œuvres d'injustice, des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds se courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice, le ravage et la ruine sont sur leur route, etc. C'est tout ce qu'on a vécu cette semaine. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a point de justice dans leur voie, ils prennent des sentiers détournés, quiconque y marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Et un verset 10 qui dit très fort, enfin c'est assez impressionnant, verset 10, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Et c'est un verset qui vraiment concerne notre matérialisme débordant. Au milieu de l'abondance, nous sommes morts. Et je peux vous dire, hein, l'esprit prophétique, dans les magasins débordants de victuailles, de nourriture et tout, parfois le Seigneur me disait, au milieu de l'abondance, vous êtes morts, vous ressemblez à des morts. Et c'est assez impressionnant. Mais... Alors, c'est assez terrible, ce chapitre 59. Mais quel est le plan de Dieu ? Verset 16. Dieu voit qu'il n'y a pas un homme. Verset 16. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Voyez ? Donc, ce que Dieu veut, il veut qu'on se lève dans l'intercession et qu'on se mette d'accord, parce que lui, il veut. Il veut que des gens se tiennent à la brèche. Vous avez cet extraordinaire passage dans Nombre avec Aaron. Il y avait une plaie, il y avait des morts. On va dire, par exemple, chez nous, c'est une plaie d'attentat, hein, une plaie, des morts, des morts, des morts. Et puis, il y a Aaron, il se tient, il vient avec l'encensoir d'or, il se tient, il fait la sacrificature, il se tient entre les vivants et les morts pour que la plaie s'arrête. Et la plaie s'est arrêtée. En 1986, il y avait une vague d'attentats en France. Billy Graham devait venir. On ne voulait pas que ça... Tous les chrétiens sont unis. Je peux vous dire que les attentats se sont arrêtés, net. Et Billy Graham a pu venir et c'était un très grand événement dans le monde de chrétiens français. Mais tous les chrétiens sont unis et je peux vous dire que la plaie s'est arrêtée. Hein. Donc il y a un appel à l'intercession qui est très fort. Et intercession, ça veut dire qu'on se met avec le peuple. Jeudi, on était donc chez Huguette, le groupe d'intercession, ça tombait vraiment ce jour-là. Et la minute de silence, on l'a vécu vraiment avec le peuple de France sur notre pectoral, hein, je peux vous dire. Hein. C'était un instant, on sentait l'âme d'une nation qui était là. L'âme d'une nation, c'est impressionnant. Mais cette âme, Dieu veut la visiter, Dieu veut la vivifier, Dieu veut la consoler. Et ça passe par son corps. C'est incondamnable, ça passe par son corps. Il faut que nous, le corps, on se lève parce que Dieu, Jésus a tout fait. Il faut juste comprendre ce qu'il a fait, le croire et se lever. C'est juste ça. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très fort devant nous, qu'on se lève. Et Ésaïe 22 nous parle de deux serviteurs, Shebna et Eliakim. Shebna, c'est le fils aîné, vous savez, le gars utile, nécessaire, qui fait son truc là. Voilà. Mais il y a autre chose. C'est Eliakim, c'est le sacrificateur. C'est un cœur de père, un cœur de sacrificateur, un cœur d'adorateur. Et c'est ce que Dieu veut lever dans son Église au milieu de nous. Voilà. Peut-être finir par la prière, hein. Voilà. Seigneur, on te demande pardon pour notre aveuglement. On ne voit pas l'ampleur de ton salut, l'ampleur de ton œuvre. On regarde à nous-mêmes, nous, Église, au lieu de regarder à toi, à ton œuvre, et avoir ce cœur de compassion aussi pour ce qui est autour de nous. Réveille ton Église. Montre-lui qui elle est, qu'elle soit forte dans son identité, parce que tu as tout fait, tout est accompli à la croix. Alors que vraiment, ton Église se lève dans l'assurance de qui elle est. Elle est ces magnifiques diamants sur ton pectoral. Elle est sacrificateur pour l'éternel. Elle est reine, elle est épouse de Christ. Elle règne avec Christ dans les lieux célestes. Qu'on se lève dans toute la stature que tu nous as donnée, parce que tu as payé un prix immense pour qu'on rentre dans cet appel, dans cette destinée, Seigneur. Et toi, ton rêve, c'est qu'on se tienne à la brèche, parce que tu veux toucher notre pays. On veut croire avec toi que l'iniquité d'un pays peut être enlevée très rapidement, beaucoup plus rapidement, qu'un pays peut se lever pour toi, qu'une nation peut se tourner vers toi, qu'en une génération, comme du temps de Samuel, on peut ramener un peuple entier à toi. Seigneur, on veut croire avec toi, ne pas t'attrister en regardant trop à nous-mêmes ou en étant incrédule. Seigneur, vraiment, viens nous réveiller. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux le faire. Viens nous réveiller. Viens nous lever tous ensemble. Et que la vie abonde à nouveau dans notre terre de France. Amen.